Laudetur Jesus Christus.
Le pacte migratoire européen inquiète les épiscopats européens au lendemain de son adoption difficile par les eurodéputés. La Comece est préoccupée par la protection des droits humains. Dans ce journal, nous partirons au Vietnam qui accueille jusqu'à dimanche le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États. Une nouvelle étape dans le rapprochement entre Rome et Hanoï avant une possible visite du souverain pontife. Au Mali, la junte militaire suspend les activités des partis politiques et des associations jusqu'à nouvel ordre. Ceux-ci sont accusés de subversion. Nous retrouverons notre correspondant régional. Et puis témoignage de Médecins sans frontières sur les conditions précaires des réfugiés soudanais dans des camps du Tchad voisin, alors que le Soudan s'apprête à rentrer dans sa deuxième année de guerre.
Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
Bonsoir. Nouveau drame migratoire en Méditerranée. Ce jeudi, les gardes-côtes italiens ont annoncé trouver 9 personnes mortes en mer au large de Lampedusa, dans des eaux maltaises. Un naufrage qui fait monter à 400 personnes les migrants morts en mer en ces 4 premiers mois de l'année 2024. Hier à Bruxelles, les eurodéputés, eux, adoptaient le pacte pour les migrations et l'asile. Ce jeudi, pleuvent diverses réactions historiques pour les gouvernements à Berlin comme Athènes. Pas suffisamment sévères pour la Hongrie et la Pologne, et source d'inquiétude pour l'Église. C'est le cas de la Comece, la Commission des épiscopats de l'Union européenne. Nous avons joint son conseiller juridique pour les migrations et l'asile, José Luis Bazán.
Cela n'a pas été facile de s'accorder sur ce pacte final ces derniers jours. Un pacte qui n'est probablement pas la solution à la gestion des flux de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile. Mais il est un pas en avant, car les sociétés européennes sont en ce moment très polarisées politiquement sur ce sujet. Donc rien que le fait qu'il y ait un accord est positif en soi. Bien sûr, il y a des manquements, des zones grises, où l'on ne comprend pas très bien ce qu'il va se passer. Il sera très important de contrôler et surveiller l'application du pacte par les États. Je suis inquiet aussi pour les ressources allouées, concernant par exemple le moment de la première entrée du migrant et réfugié dans un État. Les délais de prise en charge sont très courts, il faudra donc déployer une certaine expertise humaine, des personnes entraînées à cela depuis longtemps. Il y a aussi un besoin de lieux sûrs et dignes aux frontières. Je crains que si ce pacte est mis en œuvre très rapidement, tous les États n'aient pas la volonté et les ressources de développer les moyens d'accueil appropriés.
José Luis Bazán, conseiller juridique de la Comece pour les migrations et l'asile. Les eurodéputés qui ont voté aussi ce jeudi à Bruxelles pour l'inscription de l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Comece s'élève aujourd'hui contre cette mesure, considérant le droit à la vie comme droit fondamental. Cette inclusion dans la charte n'aboutira pas puisque l'accord unanime des États membres est requis après le vote des députés. Et la Pologne qui s'y opposerait très certainement examine pourtant à partir d'aujourd'hui à la diète les conditions d'accès à l'avortement interdit dans le pays. La coalition libérale au pouvoir est elle-même très divisée sur ce sujet. L'épiscopat polonais également a mis en garde les députés. C'est le premier rendez-vous de l'école de la prière souhaité par le pape en cette année de la prière spéciale convoquée avant le jubilé de 2025. François était dans une paroisse de Rome cet après-midi. Il a rencontré 200 enfants inscrits au catéchisme pour un échange libre et spontané. Le chef de la diplomatie du Saint-Siège en visite cette semaine au Vietnam, Mgr Gallagher, a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec le Premier ministre et d'autres représentants du gouvernement dans une atmosphère très cordiale. Ce voyage consacre l'amélioration des relations entre le Saint-Siège et la République socialiste du Vietnam. Les précisions de Xavier Sartre.
Le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur. C'est avec ces trois membres du gouvernement vietnamien que Mgr Gallagher a eu des entretiens mercredi à Hanoï, journée la plus politique de ce voyage d'une semaine. Le Saint-Siège souligne que ces rencontres se sont déroulées dans une atmosphère très cordiale, chacune des parties affirmant que les relations mutuelles sont très positives et qu'elles ont été renforcées par l'accord signé en juillet 2023 qui établit la présence d'un représentant résident du pape dans la capitale vietnamienne. Tous s'accordent à dire que ce texte est un jalon important dans l'histoire des relations bilatérales. En décembre dernier, François avait lui pris la plume pour s'adresser directement aux catholiques vietnamiens, les invitant à vivre comme de bons chrétiens et de bons citoyens, en témoignant de l'amour de Dieu sans distinction de religion, de race ou de culture. Le premier ministre vietnamien a tenu à souligner que son pays était multireligieux, que 27% de la population était croyante, soit 27 millions de personnes, et que la communauté catholique était en pleine croissance, comptant 7,2 millions de fidèles. La contribution de ces catholiques au développement de la société a été saluée par Mgr Gallagher, qui espère que les relations bilatérales pourront s'approfondir encore davantage.
Xavier Sartre, le chef de la diplomatie du Saint-Siège, en a profité aussi pour aborder le projet du voyage de François au Vietnam. Mgr Gallagher était ce soir au grand séminaire de Hue. Il doit également se rendre à Ho Chi Minh-ville pour y célébrer la messe. Un taux de pauvreté doublé depuis 2017 en Birmanie. L'ONU alerte sur le fait que la moitié des Birmans vivent sous le seuil de pauvreté avec 0,75 $ par jour. Le coup de force d'une autre que la junte birmane, celle du Mali, se fait chaque jour plus inquiétant. Les autorités décrètent ce jeudi l'interdiction aux médias de couvrir les partis politiques. Une décision qui intervient après avoir suspendu hier tout bonnement l'activité de tout parti politique. La correspondance régionale d'Abdoul Razak Idrissa.
Selon les militaires qui dirigent le pays, les partis et organisations politiques sont coupables de discussions stériles et de subversions dans le cadre du dialogue national lancé le 31 décembre dernier par le colonel Assimi Goïta, colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition malien.
Le président de la transition, chef de l'État, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'en nouvel ordre pour raison d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national.
Il s'agit là d'une nouvelle restriction à toute expression d'opposition ou de dissidence de la junte qui a pris le pouvoir en août 2020. La décision intervient quelques jours après des déclarations de partis politiques et d'organisations de la société civile réclamant un retour rapide à un ordre constitutionnel normal, par notamment la tenue d'une élection présidentielle. Ces structures estiment en effet que le 26 mars dernier était l'ultime échéance de la transition militaire et que le pays était dans un vide juridique à partir de cette date. Ce à quoi le ministre porte-parole a rétorqué non hier lors d'un point de presse. La transition continue, a notamment indiqué le colonel Abdoulaye Maïga. Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
Et l'ONU demande au Mali d'abroger immédiatement la suspension des activités des partis politiques. Le peuple soudanais en a assez du conflit dévastateur qui fait rage dans le pays. C'est l'avis exprimé ce jeudi par les enquêteurs de l'ONU alors que commence la deuxième année de combats meurtriers. Environ un millier de Soudanais ont quitté leur pays depuis le 15 avril dernier et plus de 550 000 d'entre eux ont trouvé refuge dans l'est du Tchad. Avec des conditions sanitaires préoccupantes, dans les camps de réfugiés, l'on assiste notamment à une propagation de l'hépatite E, comme le témoigne Justine Lefeuve, responsable de plaidoyer à Médecins sans frontières.
Presque un an après la crise, les besoins de première nécessité ne sont toujours pas couverts, notamment en termes de tout ce qui est eau et hygiène, et aussi d'accès à la nourriture. C'est des conditions aussi bien dans le camp de transit d'Adré, qui est à côté de la frontière soudanaise, où il y a encore plus de 100 000 personnes, que dans les camps où les réfugiés ont été relocalisés. Chez MSF, ça fait plusieurs mois qu'on alerte sur l'urgence de la situation. Là, récemment, il y a des cas d'hépatite E qui sont apparus dans ces camps et qui sont liés à un manque d'infrastructures d'hygiène et un accès limité à l'eau potable. Sur ces cas d'hépatite E, on en dénombre plus de 1300 maintenant, principalement dans le site de transit d'Adré, où les réfugiés sont donc dans l'attente d'être logés. On a une latrine pour 677 personnes en moyenne. Les messages qu'on fait passer en tant qu'MSF à la communauté internationale restent les mêmes. On est toujours en train d'appeler effectivement les bailleurs de fonds internationaux et les autres organisations humanitaires à intensifier d'urgence leur action afin de prévenir une crise médico-humanitaire qui pointe son nez, et notamment en améliorant tout ce qui est eau, hygiène, assainissement dans les camps de réfugiés.
Propos recueillis par Myriam Sandouno. Et puis l'Ukraine veut mobiliser plus d'hommes sur le front. Le Parlement a voté aujourd'hui une nouvelle loi de mobilisation. Elle accroît les sanctions contre les réfractaires. En visite dans les Pays-Baltes, le chef de l'État ukrainien a signé lui aujourd'hui un accord décennal avec la Lettonie pour un soutien militaire annuel à l'Ukraine. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci pour votre écoute. Nouvelle édition demain matin à 8h30 en direct. Très belle soirée.